Introduction à la lecture de l'écriture sainte, Père Philippe, 5 janvier 1983, Rimont.
Je répondrai à la question plus tôt ce soir. Alors, continuons, si vous voulez, cette étude de la Genèse, c'est-à-dire, après la création, l'acte de désobéissance et d'orgueil d'Ève, et la pénitence que Dieu inflige, la correction que Dieu donne aux trois. Alors, je vous avais dit, une des conséquences du péché, c'est très nettement ce fait que nous ne devenons plus capables d'être responsables de nos actes. Parce que qu'as-tu fait ? La femme dit, c'est le serpent qui m'a dupé et j'ai mangé. Donc, successivement, ils se rejettent mutuellement la faute l'un sur l'autre. Alors, on va voir la malédiction de Dieu, la correction que Dieu fait à chacun. Parce que tu as dit cela, maudit sois-tu entre tous les bestiaux et toutes les bêtes des champs. Sur ton ventre tu marcheras, poussière tu mangeras tous les jours de ta vie. Donc, on va donner une justification que le serpent est symbole du démon. Vous voyez, c'est très curieux, parce que il est évident que le serpent, avant la faute de la femme, quand même, sur son ventre il marchait, n'est-ce pas ? Alors, vous voyez, c'est tout à fait le point de vue. Les philosophes disent, voilà le langage mythique, il est illogique. Et c'est évident que dans un récit logique, on ne dirait pas cela. Alors, si chaque fois que vous êtes en face d'un ordre qui n'est pas logique, vous dites que c'est un mythe, ça peut aller assez loin. Parce que ça arrive, des récits symboliques, pour moi, ne sont pas toujours logiques. Il suffit d'un langage symbolique. Et on voit très bien ici qu'on veut expliquer pourquoi le serpent est symbole du démon. Il est symbole du démon, parce que justement, la conséquence de sa faute, c'est de ramper. Sur ton ventre, tu marcheras, et poussière, tu mangeras tous les jours de ta vie. Je mettrai de l'inimitié entre toi et la femme, et cette inimitié, elle existe déjà. Entre ta postérité et sa postérité. Alors là, il y a quelque chose de nouveau. C'est la prophétie qui est liée. Mais au fond, le reste explique le symbolisme du serpent comme étant celui qui vient tenter la femme. Vous voyez ? Je dirais, après la faute, on va se servir de ça pour expliquer cela. C'est tout à fait normal, c'est pas gênant. Mais c'est tout simplement montrer que de fait, en effet, le serpent est le symbolisme de l'animal rusé. Du mensonge. Alors, il y a tout un aspect qui serait très intéressant à voir. Comment se fait-il que le serpent peut jouer ce rôle ? Parce que le serpent est un animal qui a été créé par Dieu et qui relève de la sagesse de Dieu. Oui, ça c'est tout le point de vue rabbinique. Alors ça c'est je crois, à un point de vue symbole. Le symbole est polyvalent. Il a des significations multiples. Il peut très bien se faire que sous un aspect, il signifie l'animal rusé qui tente, et sous un autre aspect, il représente la ruse de la sagesse. La sagesse joue. Vous voyez, on prendrait la même chose à propos de la jalousie. La jalousie peut être passionnelle et elle ne regarde pas Dieu et elle est en opposition vis-à-vis de l'amour. Et il y a une jalousie qui est peut-être dans l'ordre de l'amour pour exprimer l'intensité de l'amour. Vous voyez ? Il y a tout ce point de vue ambivalent ou de signification multiple qu'on regarde au symbolisme. C'est très important de le comprendre, ça. Vous voyez ? Et ici, je vais essayer de. Je crois que c'est la naïveté de ce récit, du reste. Il y a une naïveté prodigieuse de ce récit. Mais c'est très beau, parce que ça nous fait comprendre comment on veut expliquer comment dans beaucoup de traditions, le serpent explique toujours la ruse et l'animal qui nous tente et qui nous conduit au mensonge. Alors on montre qu'il y a une malédiction de Dieu sur lui. Mais il est bien évident que le serpent, quand il rentre, n'est pas un animal maudit. C'est bien évident, Dieu a voulu qu'il y ait des serpents. Drôle d'idée, mais c'est comme ça. C'est bien voulu que... C'est vrai, parce qu'il y a des gens qui aiment bien les serpents. Oui. Je ne peux pas dire que je suis de ceux-là. Je les aime pas, on n'aime pas beaucoup des serpents, c'est pas très drôle. Non, il y en a un petit coin qui va il écoute, et ça, c'est pas très drôle d'avoir des serpents. C'est vrai, normalement, dans les pays où l'homme habite, le serpent recule. On le sait très bien. C'est là où l'homme n'est pas, et où le serpent domine. C'est très curieux, du reste, cette chose-là. Alors, on veut expliquer un symbolisme du serpent à cause du venin qui tue. Le venin tue. Alors, le serpent aurait-il eu une capacité de tuer avant la faute? Non, puisque l'homme ne pouvait pas mourir. Donc, le serpent n'aurait pas tué. C'est la conséquence de la faute, hein, que le venin du serpent peut mener l'homme à la mort. Et alors, on voit très bien là comment, au point de vue d'un langage symbolique et mythique, on arrive à trouver le point de vue de l'effet dans la cause. Alors on attribue au serpent ce rôle d'être celui qui est maudit de Dieu et qui agit de cette manière d'opposition vis-à-vis de Dieu. Et alors, où on trouve l'aspect proprement prophétique, c'est ici. Je mettrai de l'inimitié entre toi et la femme. Alors ça, c'est beaucoup plus important. Parce que ça nous révèle une stratégie. Le démon attaque toujours celui qui est le plus vulnérable. Toujours. Parce qu'il veut être victorieux. Dans toute bonne stratégie, écoutez la stratégie de Jeanne d'Arc, hein, dans toute bonne stratégie, on attaque toujours le point vulnérable. Et autant que possible, on fait dévier sur un autre point pour pouvoir attaquer davantage. Sur le point vulnérable, les ruses de guerre, hein, c'est connu. Mais c'est toujours le point de vue vulnérable qu'on attaque. Eh bien, le démon attaque la femme parce qu'elle est la créature dernière et d'une certaine manière la plus vulnérable. C'est pour ça qu'il y a l'inimitié entre le démon et la femme. Et puis aussi, on peut dire que comme c'est la créature dernière médiatrice en l'ordre de l'amour, le démon qui ne peut pas supporter l'amour est particulièrement en opposition vis-à-vis d'elle. Il y a deux raisons pour lesquelles le démon est particulièrement en opposition vis-à-vis de la femme. Ça a toujours été dit. Et c'est pour ça que la femme doit être particulièrement pieuse pour éviter les tentations du démon. Hein. Si elle n'est pas particulièrement pieuse, eh bien, elle risque de tomber dans le panneau. Puisque ce n'est pas par l'intelligence qu'elle pourra répondre au démon, mais elle pourra répondre au démon par, au contraire, un amour plus grand. Ce n'est que par un amour plus grand qu'elle pourra répondre. Par un amour plus grand, alors elle peut répondre, parce que l'amour échappe au démon. Je mettrai de l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Alors c'est très intéressant de voir les deux lignes de force. La ligne de force de la postérité du démon. Le démon n'a aucune fécondité, et pourtant il cherche à avoir une postérité. Une postérité dans l'ordre de la haine. Une postérité dans l'ordre, justement, de la communication de ses erreurs. Il veut faire école, le démon. Et donc, c'est sa postérité. Et la postérité de la femme. Celle-ci te visera à la tête. Et toi, tu la viseras au talon. Alors, on veut montrer là la lutte extrême. Alors, c'est intéressant de voir ça dès le début de la Genèse, parce qu'on pourrait dire que c'est la révélation de l'énigme qu'on trouvera à travers toute la Genèse. À travers toute la Genèse, on verra la lutte du démon à l'égard de la postérité de la femme. Cette postérité de la femme, c'est toute l'humanité. Cette postérité de la femme, c'est tout le peuple d'Israël. cette postérité de la femme, c'est toute l'Église. Il y a les trois. Les trois postérités de la femme. Alors, on voit bien que c'est contre cette postérité que le démon va lutter. Et cette postérité te visera à la tête. C'est la manière dont le Christ, par la pauvreté et l'humilité, va écraser la tête du démon. L'orgueil du démon. C'est la manière dont Marie et Jésus, et le fruit de la postérité de la femme, c'est Jésus, va écraser l'orgueil du démon. Et au moment même où il écrase l'orgueil du démon, tu la viseras au talon pour montrer la vengeance. Le démon ne s'avoue jamais vaincu. C'est l'orgueil, ça. Dans l'orgueil, on ne s'avoue jamais vaincu. On ne peut pas dire, oui, j'accepte, je suis vaincu, maintenant, ça y est, je vais reconnaître que j'ai eu tort. Le démon ne s'avoue jamais ayant eu tort. Et c'est pour ça qu'il y a la vengeance. Et toi, tu la viseras au talon. Au moment même où la tête est écrasée, il la vise au talon. Alors, le symbolisme du talon. Vous voyez ? La tête, c'est facile à comprendre. Le talon, c'est qu'on vise par derrière. Et on vise en rampant. Donc c'est la fausse humilité du démon qui veut attaquer au talon par derrière. C'est ça, il y a toute une symbolique du talon hein, qui serait intéressant à voir comment on attaque par le talon par derrière. C'est évident que c'est pas devant, tandis que la tête, on attaque devant. La postérité de la femme attaque directement et lui attaque par derrière. C'est toujours comme ça qu'il fait. À la femme, il dit, je multiplierai ta peine et tes grossesses. C'est dans la peine que tu enfanteras des fils. Vers ton mari ira ton désir et lui dominera sur toi. Alors, on va montrer la peine particulière de la femme. Et ça, c'est important à saisir parce que ça fait partie des conséquences du péché. Et les conséquences du péché sont donc différentes à l'égard du démon, à l'égard de la femme et à l'égard de l'homme. Nous, en théologie, on dit tout simplement les trois concupiscences. On a peut-être, c'est très juste au niveau de la théologie scientifique, mais on a peut-être tort au point de vue théologie mystique. Au point de vue théologie mystique, il faut montrer que les luttes de la femme sont différentes des luttes de l'homme. Et ça restera toujours comme ça. Toute libération de la femme ne fera pas que la femme tombe de Charybde en Scylla, c'est-à-dire qu'elle se libère de ses propres peines et qu'alors, à ce moment-là, elle est ligotée avec les peines de l'homme. N'est-ce pas ? Parce qu'il faudrait libérer en même temps l'homme. Je multiplierai ta peine et tes grossesses. C'est dans l'ordre de la fécondité. Dans l'ordre de la fécondité, il y aura donc une non-harmonie. C'est dans la peine que tu enfanteras des fils. Donc, du côté de la fécondité devrait être source de joie, puisque la fécondité est source de plénitude de vie, et donc elle devrait être source de joie. Or, de fait, à l'intérieur même de la fécondité, il y aura cette brisure. Vers ton mari ira ton désir. L'amour de la femme pour l'homme, qui est naturel et qui est bon et qui est voulu par Dieu, va de fait impliquer un désordre. Vers ton ami, ton mari ira ton désir. Alors désir pris là justement comme le point de vue de la concupiscence. Et lui dominera sur toi. Quelqu'un qui est dans un état de désir et dans un état de fragilité. Vous savez, le chat et la petite souris, n'est-ce pas, qui veut dominer dessus. C'est très net. On voit très bien. Et c'est vrai qu'on peut très bien user d'un désir de quelqu'un pour dominer, ce qui est mauvais, ce qui n'est pas juste. Quand on voit quelqu'un a un désir, si on voit que ce désir est légitime, on considère que ce désir, eh bien, le met dans un état de fragilité. Le désir exprime notre pauvreté. et notre amour. Alors on répond à un désir, et on ne veut pas le dominer. Mais lui dominera sur toi. C'est très très fort de montrer les deux aspects où dans le cœur de la femme, il y a une conséquence du péché. Du côté de la fécondité à l'égard de ses enfants, du côté de son amour à l'égard de son mari. Et à l'homme, il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Maudit soit le sol à cause de toi. Dans la peine, tu t'en nourriras tous les jours de ta vie. Ce sont des épines et des chardons qu'il fera germer pour toi, et tu mangeras l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ton retour au sol, car de lui tu as été pris, car poussière tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. Vous voyez comme c'est curieux, hein ? Et c'est intéressant de voir cela. C'est à l'égard de son travail que l'homme va connaître les conséquences du péché. C'est à l'égard de sa domination à l'égard de l'univers. Maudit soit le sol à cause de toi. Il y a une malédiction, une opposition qui se réalise à cause de la faute entre le monde physique et l'homme. Alors, on montre que le travail doit devenir un travail laborieux. Alors, certains expliquent en disant, mais oui, voyez, comme c'est pas normal que le travail soit pénible, on veut expliquer pourquoi le travail est pénible et on le met comme une conséquence du péché. Ça, c'est l'explication psychologique d'un mythe. Mais c'est pas l'explication divine de l'Écriture. L'explication divine de l'Écriture, c'est de comprendre ce que nous est montré là est vraiment un regard de Dieu sur l'homme pécheur, un regard de Dieu sur la femme pécheresse, un regard de Dieu sur le démon qui tente l'homme. Alors, si nous regardons de cette manière-là, nous devons donc dire que la conséquence du péché sur l'homme se traduit en premier lieu du côté de son travail. Ce sont des épines et des chardons qu'il fera germer pour toi. Le travail connaîtra des échecs. Mais rien de plus humiliant pour l'homme que de travailler avec un échec au terme. C'est vrai, et quand ça se répète, ce sont des épines et des chardons, pas un chardon et une épine. Et donc ce sont des épines et des chardons qu'il fera germer pour toi à la place qu'il pousse normalement du blé, il poussera des épines et des chardons. Voilà l'échec. Et tu mangeras l'herbe des champs. Donc à la place de prendre du blé et des fruits, il prendra l'herbe des champs, comme les autres animaux. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ton retour au sol. Et alors la grande conséquence, car poussière tu es, et à la poussière tu retourneras, la mort. Je crois que là nous avons, voyez, les conséquences du péché, je les résume si vous voulez, parce que c'est important pour nous de voir cela, et d'essayer de le comprendre. Nous y reviendrons, pas tout de suite, c'est la question du péché originel, et la question des conséquences du péché originel. On pourrait le voir ici. Comment l'Église a-t-elle compris cela ? Elle l'a compris par la doctrine du péché originel. Ça, c'est le fondement. Ça, c'est très net. C'est pas le seul lieu, hein, vous comprenez bien. Le grand lieu, c'est l'Épître aux Romains. Et donc, c'est l'Épître aux Romains qui doit projeter une grande lumière sur ce passage. Et on pourrait très bien ici faire la théologie du péché originel. Je ne dis pas que je ne la ferai pas. Parce que c'est quand même important de regarder dans l'Épître aux Romains ce passage si fort, si net, où il nous est montré que dans la désobéissance d'un seul, tous ont commis le péché. Alors, je reprends ici les conséquences du péché. Première conséquence du péché, c'est à l'égard du démon. le péché va augmenter la rivalité et l'opposition qui existe entre le démon et les hommes. C'est la conséquence du péché. Ça, c'est très très important à voir. Parce que ça montre que lorsqu'il s'agit de la rivalité, plus on succombe à la rivalité, plus la rivalité augmente. Alors on pourrait dire que plus on s'approche du terme, plus le démon est en rivalité vis-à-vis de l'homme. Ce que je crois. Parce que le démon était en rivalité avant la faute. C'est pour ça qu'il l'a attaqué. C'est pour ça qu'il l'a tenté. Mais la conséquence de la faute, c'est de mettre une rivalité encore plus grande, vous voyez. Je ne prends pas du tout le raisonnement que prendraient certains. Je prends au contraire un raisonnement qui consiste à regarder l'Écriture comme me donnant un enseignement. Eh bien, je vois bien que la faute a augmenté l'inimitié entre le démon et la femme. Et donc, on peut dire cette inimitié est au carré. Donc, le péché, dans la mesure même où l'homme se laisse prendre par le péché augmente l'inimitié du démon vis-à-vis de l'homme. Plus le démon tente l'homme et plus l'homme se laisse tenter par le démon et succombe, plus le démon est en rivalité grande avec l'homme. Plus il le poursuit, autrement dit, plus il le tente. Et cette inimitié va s'étendre à toute la postérité de la femme et du démon. Et cette inimitié est représentée par une lutte implacable. La tête et le talon. C'est la lutte implacable. Le démon ne peut pas aller plus loin. C'est dans ce sens-là qu'on pourrait dire que le démon ne peut pas tuer l'homme. Alors là, c'est une très grave question. Vous savez, cette fameuse chose que le père Finet aime de dire, il l'a dit ouvertement, alors on peut le répéter, c'est le démon qui a tué Marthe. Alors, c'est très très délicat comme interprétation théologique. Est-ce que le démon peut tuer? Tu la viseras au talon. C'est difficile de tuer quelqu'un par le talon. On étrangle quelqu'un. On ne le tue pas au talon. Dans l'Ancien Testament, comme toujours, l'Ancien Testament ne nous donne jamais de principe. Donc on ne peut jamais s'appuyer sur l'Ancien Testament pour avoir une théologie. L'Ancien Testament, vous voyez le livre de Job, qui montre que le démon a un pouvoir limité et que le démon ne peut pas tuer Job. Le démon peut faire que ses fils et ses filles tombent dans un accident. Hein, le démon peut vous faire tomber une tuile sur la tête et puis alors de là vous mourrez. Vous voyez ça, il se sert d'une tuile. Il se sert d'une tempête. Il se sert d'une tempête faire qu'à ce moment-là, ça c'est très vrai. Il a une action sur les... C'est pas direct, vous voyez, il se sert d'instrument. Il se sert d'un bâton mené par un homme, c'est évident, ou une femme. N'est-ce pas? Il se sert d'un bâton pour tuer quelqu'un. Il se sert d'un fusil, il se sert d'instrument. Mais je ne crois pas que le démon puisse tuer directement quelqu'un. Dans l'Ancien Testament, il y a le fameux passage du livre de Job, où on a l'impression que Asmodée, pour l'appeler par son nom, a un pouvoir extraordinaire de tuer, vous savez, cette pauvre femme qui a eu tellement de maris et qui sont tous morts dans son lit. C'est effrayant, c'est affolant, hein, comme histoire. Hein. Et ça se multiplie. Alors, il y a Asmodée qui fait ça. Très difficile de savoir ce que c'est. Hein. Vous voyez le principe qui est engagé là-dedans. Hein. Je ne vous demande pas l'interprétation. Difficile, difficile. Alors, vous avez, selon l'Ancien Testament, deux textes. L'un qui est net, le livre de Job, et l'autre qui est plein de mythes, qu'à le dire. Cette pauvre femme, elle est tellement hantée qu'à ce moment-là, elle peut, hein, dans sa tête raconter des petites histoires. Il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose qui est là, difficile à expliquer. Je ne crois pas qu'on puisse se servir de ça pour que dire que le démon peut attaquer directement. Et si je regarde ici, qui est un lieu très important, je mettrai de l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci te visera la tête, et toi tu la viseras au talon. Donc il ne semble pas que le démon ait reçu le pouvoir de tuer l'homme. Je ne crois pas. Parce que la vie et la mort sont remis entre les mains de Dieu. Alors on pourrait dire que Dieu permet au démon. Mais est-ce que Dieu permet au démon cela? Est-ce que ça fait partie des permissions de Dieu par rapport au démon? Ou est-ce que le démon se sert toujours d'un homme pour tuer un homme? Ce que je croirais plutôt. Le démon peut secouer, le démon peut abîmer, le démon peut vraiment projeter quelqu'un par terre. Le démon était capable de projeter Marc par terre. L'affaire Vert n'avait aucune défense. Vous voyez? Et alors en la jetant par terre, alors à ce moment-là, Dieu peut permettre, mais Marc, elle dépendait uniquement du bon plaisir de Dieu, puisque selon les lois naturelles, elle aurait dû mourir. Donc elle était en suspension directe vis-à-vis de Dieu. Et donc elle dépendait directement du bon plaisir de Dieu. Alors si elle dépendait directement du bon plaisir de Dieu, elle a quitté cette terre quand Dieu l'a voulu. Alors, le démon a pu l'attaquer. On ne peut pas dire au sens strict que c'est le démon qui l'a tué. Mais au sens strict, au sens précis, on peut dire que Dieu l'a rappelé. Dieu l'a reprise. Les luttes étant si fortes, Dieu la reprend. Eh bien, là, il faudrait dire qu'il y a un instrument de Dieu, un instrument du démon. Le démon se serait servi de quelqu'un pour l'attaquer. Ce qui n'est pas du reste impossible, ces choses-là. Pas du tout. Parce que c'est tout à fait plausible que des hommes ne pouvaient plus supporter la présence de Marthe. On ne sait pas, ça reste très mystérieux, comme toujours ces choses-là, ça reste très mystérieux. Ce qu'on peut être sûr, c'est que elle a quitté cette terre quand Dieu l'a voulu. Mais voyez, c'est important, hein, c'est important ce lieu, et il faut y réfléchir. C'est pas un principe, encore une fois, c'est de l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, il est toujours montré que la vie et la mort dépendent directement de Dieu. Alors Dieu peut permettre que le démon se serve d'instrument. C'est évident que celui qui a voulu assassiner le Saint-Père, c'est un instrument du démon. Il aurait pu faire que ça a réussi. Enfin, la Vierge Marie n'a pas voulu. Ce qui montre bien, vous voyez, le pouvoir de Dieu en dernier lieu, tout le temps. Alors donc, premièrement, la rage du démon qui augmente vis-à-vis de la femme. La lutte implacable entre la destinée de l'homme et de la femme. Troisièmement, la souffrance particulière de la femme dans l'ordre de la fécondité. Quatrièmement, son désir qui se porte sur son mari. C'est-à-dire que de fait, il y a en elle une fragilité particulière à l'égard de son amour pour celui qui est l'homme. Et l'autre qui la domine. Je dirais que les deux se tiennent. Et puis, cinquièmement, on pourrait dire la malédiction du sol, donc au niveau du travail. Le travail sera donc un travail pénible avec des échecs. Et par le fait même que le travail sera un travail pénible avec des échecs, l'homme pourra très bien ne pas aimer le travail et tombera par le fait même dans les conséquences qui l'apparaissent. Alors ça ne veut pas dire que la femme n'est jamais paresseuse, hein. Ça veut dire que l'homme est plus enclin à la paresse que la femme. Je crois qu'on peut le dire. Ça fait partie de ces vérités qui sont données dans l'Écriture. L'homme est plus enclin à la paresse. que la femme. C'est vrai que d'une façon générale, la femme travaille beaucoup plus que l'homme. Parce que l'homme aime bien d'avoir un travail précis. Quand on lui dit travailler toute la journée, sans trop préciser, mais précisez-moi exactement, je le ferai. Bon, on aime d'avoir un travail précis pour pouvoir organiser son temps. Tandis que la femme, elle travaille tout le temps. Pas besoin d'organiser. Elle travaille tout le temps. La femme travaille de cette manière particulière, c'est que de fait, il y a une présence beaucoup plus profonde de la femme vis-à-vis du foyer, vis-à-vis de la communauté humaine. Et c'est pour ça qu'elle voit beaucoup plus travailler. L'homme appela sa femme du nom d'Ève, parce qu'elle a été la mère de tous les vivants. Alors voyez, là encore, cette chose curieuse, hein, le nom est donné après la faute. L'homme appela sa femme du nom d'Ève, parce qu'elle a été la mère de tous les vivants. Alors voyez, là encore, cette chose curieuse, hein, le nom est donné après la faute. C'est aussi quelque chose d'assez intéressant. Avant la faute, il n'y avait pas besoin. On n'a pas besoin de nommer celui qu'on aime. Celui qu'on aime, on le découvre et puis c'est tout. On ne le nomme pas. L'amour, il se vit dans le silence. Tandis qu'au contraire, étant donné cette possibilité d'opposition, cette possibilité de brisure qui existe entre l'homme et la femme, il faut bien que l'homme appelle sa femme du nom d'Ève, parce qu'elle était la mère de tous les vivants. Ça va très loin, cette chose-là. Il l'appelle en fonction de ses enfants. Il ne l'appelle pas à partir de son amour. Normalement, quand on aime profondément quelqu'un, on n'a pas besoin de nommer. On l'aime, c'est tout. Je t'aime. Je ne sais pas ton nom, ça m'est égal. Je t'aime, c'est toi que j'aime. Peu importe comment tu t'appelles. Et c'est vrai que c'est comme ça. C'est même très curieux de voir ça. On n'a pas besoin. Le nom, on sait très bien, c'est une présence de substitution. Quand la présence d'amour n'est plus là, on a besoin du nom. Ça ne veut pas dire que le nom de religion existe parce qu'il n'y a pas d'amour de charité fraternelle dans la communauté, n'est-ce pas ? Ne dites pas ça. Mais c'est très vrai que si l'amour était toujours en acte, on n'aurait pas besoin. C'est utile le nom, vous voyez ? C'est utile. Ça fait partie de l'ordre de l'utilité. On appelle quelqu'un par son nom. On l'appelle. S'il y avait un amour toujours, hein, pas besoin. Immédiatement, vous seriez sensible. N'est-ce pas ? Pas besoin de vous appeler. Vous comprendriez tout de suite que celui qui vous aime vous appelle. Et alors à ce moment-là, vous seriez immédiatement présent. Et le nom ici, parce qu'elle a été la mère de tous les vivants, c'est pour ça qu'il la nomme Ève. Et donc le nom est donné en fonction, je ne dis pas de l'efficacité, mais en fonction de la fécondité. Le nom d'Ève est lié donc à la vie. Yahvé Dieu fit à l'homme et à la femme des tuniques de peau et les en revêtit. Ça, c'est Yahvé qui a fait ça, un petit don gratuit. Alors, vous voyez, c'est amusant de voir ça parce que il est dit précédemment, n'est-ce pas, que de fait, alors se dessillèrent leurs yeux à tous deux, et ils connurent qu'ils étaient nus, et cousant des feuilles de figuier, ils se firent des pagnes. Hein, c'est dit au verset 7. Ici, il y avait Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau. C'est un peu plus élégant. C'est pour ça que c'est donné par Yahvé, disons. Et les en revêtit. Ça va un peu plus loin. C'est très curieux aussi. Alors évidemment, si vous cherchez le sens logique de ça, je crois qu'il ne faut pas le chercher. Je crois qu'il faut montrer qu'il y a deux traditions qui se mêlent là. Et toutes les deux sont gardées. La tradition première qui montre que l'habit est pour cacher la nudité, parce qu'à partir du péché, la nudité devient honteuse. À cause de ça, première tradition. Deuxième tradition, c'est Dieu lui-même qui fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les en revêtit. C'est Dieu qui prend ce soin-là. Alors, c'est Dieu qui, par miséricorde, c'est une miséricorde de Dieu, c'est Dieu qui, par miséricorde, veut montrer un signe de protection pour l'homme et la femme. Il y a une malédiction par rapport au sol, mais cette malédiction n'est pas totale. Et Dieu revêt l'homme et la femme de tuniques. Alors vous voyez, il y a deux symbolismes différents. Et les deux symbolismes ne sont pas en contradiction, et c'est pour ça que l'Esprit-Saint garde les deux. Alors, ce serait très intéressant, mais ça, je crois qu'on ne l'a pas découvert. Ce serait très intéressant de redécouvrir les traditions religieuses tout à fait primitives, d'où viennent ces traditions-là. Et alors de voir que de fait, il y a deux traditions, l'une où c'est l'homme et la femme qui se revêtent eux-mêmes de cet habit tout à fait primitif, et l'autre, c'est Dieu. Contexte de miséricorde, contexte de honte. C'est curieux. Oui, comme c'est curieux, la théologie de l'habit, hein. Yahvé, Dieu dit, voilà que l'homme est comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Et maintenant, il ne faudrait pas qu'il étende la main et qu'il prenne aussi de l'arbre de vie, qu'il en mange et vive à jamais. Et Yahvé, Dieu, le renvoya du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été pris. Il chassa l'homme et posta à l'orient du jardin d'Éden les chérubins et la flamme du glaive tournoyant pour garder le chemin de l'arbre de vie. Là aussi, c'est très curieux. Hein. Conséquence du péché. L'homme va exalter sa connaissance, l'orgueil. La conséquence du péché. Voilà que l'homme est comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Autrement dit, la tentation du démon a pénétré dans leur vie. Leur intelligence n'est plus une intelligence purement contemplative. Leur intelligence n'est plus une intelligence uniquement ordonnée à la charité fraternelle. C'est une intelligence orgueilleuse qui veut dominer. Alors on comprend très bien ça. Voilà que l'homme est comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Et maintenant, il ne faudrait pas qu'il étende la main et qu'il prenne aussi l'arbre de vie, qu'il en mange et vive à jamais. Donc, Dieu voit les intentions orgueilleuses de l'homme. Et à l'égard de ces intentions orgueilleuses de l'homme, Dieu va prévenir par un labeur difficile. Chassé du paradis terrestre. Je crois qu'il y aurait beaucoup à dire là-dessus parce que c'est quand même très curieux. Hein. À première lecture, on voit très bien l'anthropomorphisme énorme. On attribue à Dieu une peur. Comme si Dieu avait peur que subitement l'homme et la femme arriveraient à le dépasser. Alors il faut prévoir, et en bonne tactique, il faut l'empêcher d'atteindre, de manger de l'arbre de vie, pour qu'il continue de mourir, l'arbre de vie lui donnant l'immortalité, pour qu'il vive à jamais. Au fond, l'homme va chercher l'immortalité. Dieu le condamne à la faute et dans son orgueil, il cherche l'immortalité. Il cherche l'immortalité par la connaissance du bien et du mal. C'est aussi très curieux, ça. Au fond, l'homme a une peine énorme d'accepter la mort. Et ça, c'est vrai. L'homme a une peine énorme d'accepter la mort. Et parce qu'il a en lui quelque chose qui demande d'être immortel. Et donc, il a une peine énorme d'accepter la mort. Et parce qu'il a une peine énorme d'accepter la mort, il va essayer par tous les moyens d'échapper à cette mort. Donc, de vivre à jamais. Et l'arbre de vie, je crois, représente ici justement ce que tout ce que l'homme est capable d'inventer pour échapper à la mort. Et alors, nous voyons ici comment Yahvé le renvoie du paradis d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été pris. Comment Dieu le renvoie dans un travail difficile, pénible, où il ne pourra plus spéculer autant. N'est-ce pas? On voit très bien la connaissance du bien et du mal. Il sera pris par une nécessité de vivre. Il le chasse du paradis. Il chassa l'homme et posta à l'orient du jardin d'Éden des chérubins et la flamme du glaive tournoyant pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alors, comment comprendre encore une fois ce symbolisme? C'est du symbolisme, c'est du symbolisme pur. Je crois, du moins c'est comme ça que je l'interprète, je crois qu'on peut dire ceci. Dieu sait que la nostalgie la plus profonde qui existe dans le cœur de l'homme, c'est de retourner à l'arbre de vie pour acquérir l'immortalité, par lui-même. C'est au fond la grande tentation permanente de l'homme, après la faute. Il y a une nostalgie fondamentale dans l'homme. D'acquérir par lui-même, par l'arbre de vie, d'acquérir l'immortalité, de retourner au paradis terrestre et d'échapper par le fait même à la mort. Alors Dieu ne veut pas cela. Dieu ne tolère pas cela. Il faut que l'homme accepte la conséquence du péché. Parce que par orgueil, l'homme pourrait ne pas accepter la conséquence du péché. Comme le démon, par orgueil, n'accepte pas la conséquence du péché. Ce qui ne veut pas accepter qu'il est pécheur. Tandis que Dieu veut, par amour pour l'homme, pour que l'homme demande pardon, que l'homme comprenne qu'il est pécheur. Et l'homme comprendra qu'il est pécheur dans la mesure où le travail sera pénible et difficile. Alors à ce moment-là, à cause de ce travail pénible et difficile, il s'humiliera.